C'est votre émission À ta santé. Bienvenue sur O2 Radio. Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur et plaisir de vous retrouver pour votre émission À ta santé sur les ondes de O2 Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 de la bande FM et sur internet hauts-de-radio.fr. À ta santé, l'émission de radio qui parle aussi bien de la santé humaine que de la santé animale. On est parti pour votre émission santé et aujourd'hui je reçois Angélique et Tara qui nous parlent de la danse orientale au service du bien-être féminin.
Bonjour.
Bonjour Angélique, bonjour Juliette.
Bonjour Angélique, bonjour Valérie.
Vous allez bien les filles?
Ça va.
Mais oui, ça va. En forme, merci de m'accueillir.
Ben justement Angélique, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Alors en quelques mots, donc je m'appelle Angélique, ça c'est mon prénom, et Tara c'est mon nom de danseuse de scène. Et je pratique la danse orientale depuis 20 ans. J'ai commencé à donner des cours en Île-de-France avant d'arriver en Gironde. Donc ça fait plus de 10 ans que j'enseigne la danse orientale. Et je crois que c'est important de souligner qu'au-delà d'être danseuse et d'enseigner la danse orientale, je suis aussi art-thérapeute. Et donc c'est une casquette qui influence beaucoup ma posture parce qu'en fait, au-delà de la dimension technique et chorégraphique, j'attache une importance particulière au bien-être. Et donc, en partie à la santé.
Et oui, au bien-être féminin en tous les cas. Mais justement, avant d'aller plus loin dans le sujet, eh bien, on va faire notre première pause musicale. Aïcha de Raled.
Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. J'irai où ton souffle nous mène. سيد حياتي وحبي انت عمري وانت حياتي تمنيت ان اعيش معك غير انت عيشة عيشة هيك وتموى عيشة عيشة انا نبغيك عيشة عيشة طبابا عيشة عيشة ونموت عليك عيشة عيشة غيب بابا
Auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Angélique et Tara nous parlent de la danse orientale au service du bien-être féminin. Angélique, pour commencer, comment en es-tu venue à la danse orientale ? Est-ce que c'est une danse qui t'a été transmise dans ta culture familiale ?
Pas du tout. Du tout, du tout. En fait, la danse orientale, elle est rentrée, entre guillemets, par hasard, dans ma vie en 2005. Donc, c'était il y a longtemps. À l'époque, je vivais en région parisienne, j'étais adolescente. Et donc, on peut mettre le saut du hasard là-dessus, mais en fait, avec le recul, moi, je ne le vis pas du tout comme ça. À l'origine, c'est ma grand-mère qui, à l'époque, est tombée sur un prospectus qui avait été déposé dans sa boîte aux lettres.
D'accord.
Et en fait, j'ai fait un essai et ça a été une vraie révélation. Et donc, je me suis engagée à cœur et à corps perdu dans la danse orientale.
D'accord, donc tu t'es épanouie, entre autres, à travers, effectivement, ce sujet-là, cette thématique-là
Eh bien, ça a été un grand appui de développement personnel.
D'accord.
Mais aussi, ça m'a permis, moi, de me connaître. Et de mieux appréhender cette féminité, puisque à l'époque, alors quand j'ai commencé tout juste, j'avais 15 ans.
Ouais.
Et puis au fil du temps, on m'a proposé d'ouvrir un cours, donc j'ai commencé par ouvrir un cours enfant, puis après ça a été les ados, les adultes, etc.
D'accord, justement, est-ce que tu peux nous dire ce que tu entends par danse orientale ? Voilà, parce qu'on pense à plein de choses. Hein,
Alors, déjà, avant de vous dire ce que j'entends par danse orientale, il faut savoir que moi, cette danse, finalement, elle est pas arrivée par hasard.
D'accord.
Elle est arrivée par synchronicité, on peut dire, puisque ça m'a permis de faire le lien avec des racines auxquelles j'avais pas accès.
D'accord, parce que, excuse-moi, je te coupe, parce que tu sais que dans notre imaginaire, on pense effectivement à une femme dénudée, sensuelle, voire même sexy. Est-ce que c'est vraiment ça, justement, la danse orientale ? Je te laisse poursuivre.
Alors non, c'est pas ça. En fait, la chose qui est importante à dire, c'est que déjà, la danse orientale, on l'appelle orientale au singulier. Or, on a des danses orientales. Il y a une multitude de pratiques. Quand on parle de danse orientale en France, on pense souvent à la danse égyptienne. Or, on a plus largement des danses qui sont d'origine arabo-berbère. Et en fait, avant qu'on commence à parler de danse orientale en France, je crois que c'était 19e siècle,
d'accord,
on avait la danse du ventre qui avait une
oui.
connotation, alors pour nous les danseuses, qui est une connotation négative
oui.
en fait. Hein. Et il y a eu toute une histoire de colonisation qui a pris une place monstrueuse dans l'image qu'on se fait de la danse orientale et des danses orientales en Occident.
Donc c'est ce qu'on... Effectivement, on appelle des mythes ou des croyances autour de cette danse, entre autres.
Alors, ouais, c'est pas des mythes, là. Hein. C'est vraiment l'image que les gens ont collée sur la danse orientale, qui est très liée, finalement, à la colonisation et à une image, parfois, presque même de prostitution et de don de son corps. Or, c'est pas du tout ça. Il faut réussir à déconstruire ça parce que ça fascine beaucoup. Et finalement, c'est un regard qui est posé, qui est très masculin.
D'accord. Alors, avant que...
Moi, j'avais une question parce que justement, tu parles voilà, d'images de prostitution, et etc. Mais en fait, ce sont des croyances qu'on nous a peut-être envoyées en images quand on regarde certains films, justement, avec les danseuses orientales, en fait.
Oui. Alors, en fait, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est très lié à la colonisation. Et donc, malheureusement, on va dire que certaines danseuses et actrices ont été plus ou moins prises un petit peu dans ce jeu-là, se sont réappropriées ces images très, très sexy, très sensuelles, très charnelles, presque à l'exagération. Et ça a été repris dans beaucoup de films, notamment dans le cinéma égyptien, particulièrement dans les années 40. Et donc, en fait, on a oublié les danses traditionnelles. Et finalement, cette construction, elle est relativement récente. Parce que même ne serait-ce que les costumes, les costumes qu'on voit aujourd'hui avec les strass, les paillettes, les soutiens-gorge pigeonnants, les cuisses visibles, etc., c'est des costumes qui sont issus en fait de la culture du cabaret et de la danse orientale de cabaret, qui est finalement pas du tout la danse orientale.
Oui, c'est pas en adéquation avec ce que ça représente réellement.
C'est ce qu'on en a fait. Il y a une dimension artistique qui est très, très créative, qui est super intéressante, qu'on peut utiliser. Mais il faut avoir conscience de comment notre colonisation occidentale, elle a impacté ces danses orientales et donc de ne pas en faire une appropriation culturelle, finalement.
Bien sûr. Alors, je vais proposer la deuxième pause musicale, n'est-ce pas, si tout le monde est d'accord, avec Desert Rose de Sting et Chet. Mamie.
Pour les auditeurs qui nous rejoignent ce matin dans l'émission À ta santé, Angélique et Tara nous parlent de la danse orientale au service du bien-être féminin. Si vous avez envie de réécouter l'émission, elle sera disponible en podcast sur le site de la radio, audioradio.fr, dès la fin de l'émission. On va revenir sur une question, Angélique, d'avant la pause, si tu le veux bien. Et justement, je voulais qu'on approfondisse cette histoire de mythes et de croyances autour de cette danse.
Ben avec plaisir. Avec grand plaisir. Alors en fait, donc, tout à l'heure, on parlait un petit peu de l'appropriation culturelle et de comment on peut interpréter cette danse. Et en fait, je crois qu'il faut la replacer dans un contexte culturel aussi. Parce qu'on a énormément de mythes qui entourent la danse orientale. Et c'est difficile de distinguer le mythe de la réalité. D'ailleurs, je ne suis pas certaine qu'on puisse la faire vraiment, cette distinction. C'est une danse qui est extrêmement ancienne. Elle est transmise essentiellement de façon orale. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on dispose de très, très peu de ressources matérielles fiables. On l'associe souvent alors à différents mythes, donc des rites de fertilité notamment, en lien avec la religion, l'ésotérisme. Il y a certaines croyances qui évoquent que des femmes dansaient pour célébrer la crue du Nil, remercier les divinités ou symboliser la conception et l'enfantement à travers des mouvements qui sont des ondulations, des hanches, du ventre, etc. Et en fait, depuis l'Antiquité, toutes les grandes civilisations pharaoniques, mésopotamiennes, arabes, indiennes, accordaient une place très importante à la danse et à la musique dans les pratiques religieuses, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Et même si la danse orientale s'est développée notamment en Égypte et elle porte aussi des influences venues d'Inde, puisqu'on a eu la grande migration des Tziganes qui nous ont apporté des influences donc indiennes. On a peu de preuves historiques qui permettent d'affirmer qu'elle était à l'origine une danse sacrée ou rituelle au sens strict du terme. Mais il y avait aussi quand même des croyances selon lesquelles la femme possédait quand même des pouvoirs magiques, notamment, celui quand même de concevoir la vie. Et donc, on a un dernier mythe qui a la peau très dure. C'est l'idée selon laquelle la danse orientale, elle aurait été créée dans les harems pour plaire aux hommes. Et historiquement, elle est avant tout pratiquée par et pour les femmes dans des contextes qui sont sociaux, festifs et culturels. Et je crois que c'est important de le dire. Elle est pratiquée avant tout par et pour les femmes.
La vérité.
Voilà.
Bon, merci pour ces précisions, Angélique. Alors aujourd'hui, tu es venue nous parler des bienfaits de la danse orientale pour notre bien-être, à nous, les femmes. Mm-hmm. Mais justement, qu'est-ce que tu entends par là ?
Ah, qu'est-ce que j'entends par là ? Quand je parle des bienfaits de la danse orientale pour les femmes, je parle avant tout de quelque chose que j'ai pu expérimenter et observer. Donc c'est une question plutôt d'expérience. C'est une danse que je pratique donc depuis 2005, depuis une vingtaine d'années, que j'ai enseignée pendant plus de 10 ans à des publics très variés, enfants, ados, adultes, à des femmes qui vont jusqu'à, je crois que les élèves les plus âgés que j'ai eus, elles ont la soixantaine.
Ah mais je vais pouvoir venir.
Mais avec grand plaisir, je t'accueille. Avec plaisir. En plus, on a un groupe à Libourne, là où je donne des cours, hyper, hyper cocon et bienveillant. Donc écoute, t'es la bienvenue.
Merci.
Et c'est au fil des années, en fait, que je me suis rendu compte que mon rôle de prof de danse, il dépassait le rôle de la simple transmission et d'une pratique artistique. J'ai accompagné beaucoup de jeunes filles et de femmes sur des problématiques qui allaient au-delà de l'apprentissage de la danse. Et donc, évidemment, hein, en parallèle, j'ai ma casquette d'éducatrice spécialisée, d'art-thérapeute qui est toujours en ligne de fond, je pense, et qui influence beaucoup ma façon d'enseigner. Parce que voilà, ma manière d'enseigner la danse, elle est traversée par une approche du bien-être à la fois physique, mentale et émotionnelle. Et je pense que les femmes, individuellement et collectivement, elles sont confrontées à de nombreuses difficultés qui sont liées à l'image de soi, au rapport au corps et au regard des autres. Et dans la danse orientale, on vient justement nous mettre en contact avec tous ces enjeux, et souvent de manière beaucoup plus profonde qu'on l'imagine.
D'accord, merci beaucoup pour ces précisions. Et justement, parmi ces problématiques féminines dont tu parles, quand une femme pratique la danse orientale, quel bienfait peut-elle en tirer sur le plan du bien-être et de sa santé mentale, en fait ?
Ah, alors les bienfaits, ils sont nombreux. La danse orientale, elle accompagne les femmes à différents moments clés de leur vie, notamment lors des grandes transformations du corps. Donc on a la puberté, par exemple. Le corps se transforme, donc ça pose beaucoup de questions. Comment on accepte cette nouvelle image de femme en devenir ? Comment on apprivoise ce corps qui n'est plus celui de l'enfance ? Et la danse, elle peut être un espace très précieux pour traverser cette période-là. Elle interroge aussi profondément le rapport à la féminité. On vit dans une société qui est largement pensée par, pour les hommes, comme je disais tout à l'heure. Et donc, c'est difficile de s'autoriser cette féminité qui est assumée. Et là, je ne parle pas d'excès ou de vulgarité, mais du fait de pouvoir jouir de sa propre féminité sans qu'elle soit nécessairement conditionnée par le regard des autres et par le regard masculin. Et la danse orientale, elle confronte à l'acceptation de son corps. C'est une danse qui est issue de cultures où la minceur, elle n'est pas nécessairement valorisée, comme elle peut l'être en Occident. Et on met au contraire en valeur les courbes féminines. Moi, dans ma façon d'enseigner, c'est essentiel de transmettre ça, que en fait, tous les corps sont beaux. C'est des enjeux qu'on retrouve à beaucoup de moments de la vie, en fait. Donc on a aussi ces enjeux-là qu'on retrouve dans les périodes postpartum, mais aussi à la ménopause. J'ai dans mes cours plusieurs femmes, dont je disais tout à l'heure, de plus de 50, de plus de 60, qui traversent aussi des changements dans leur corps. Et donc tout ça demande un nouveau travail d'acceptation. Et dans l'inconscient collectif et dans les médias, l'idée, elle est encore présente qu'une femme qui n'est plus fertile ne serait plus désirable et ne serait donc plus féminine. Or, la danse, elle permet justement de déconstruire cette idée et de se réapproprier son corps féminin en dehors de toute question de cycle menstruel ou autre. Et enfin, il y a la question de la confiance en soi, de la confiance en son corps. Danser, c'est faire alliance avec son corps. C'est lui faire confiance, c'est accepter son reflet dans le miroir. Et on a, lors des représentations de fin d'année, avec les élèves, la confrontation au regard du public qui met en avant et qui met au travail beaucoup de peurs qui sont liées au jugement des autres. Et ça concerne pas uniquement la danse orientale, hein, mais ça concerne aussi toutes les pratiques artistiques en général. Et pour finir, en parlant de la question de la scène et des représentations, parce que évidemment, moi quand j'enseigne, c'est pas la scène, elle est pas obligatoire, elle est choisie par les élèves. Mais dans le mot représentation, on a l'idée de se représenter et donc de se présenter une seconde fois au monde. C'est un peu comme faire naître le personnage qu'on choisit d'incarner. La préparation, le costume, le maquillage, la coiffure, tout ça, c'est des choses qui agissent comme un masque protecteur. Et derrière ça, on peut s'autoriser, souvent, contrairement à ce qu'on peut croire, à être davantage pleinement soi-même et à faire émerger des parties de soi qu'on a tendance à pas oser montrer, en fait.
C'est sûr.
Écoute, merci beaucoup. Alors, justement, concernant le bien-être physique, qu'est-ce que la danse orientale peut apporter aux femmes ?
Qu'est-ce qu'elle peut apporter aux femmes concernant le bien-être physique ? Beaucoup de choses aussi. La danse orientale, donc on a de nombreux bienfaits sur le plan physique. C'est d'abord une danse qu'on peut qualifier de relativement douce. dans le sens où on n'a pas de, a priori, on n'a pas de mouvement violent ou dangereux. Donc ça la rend accessible à beaucoup de tranches d'âge. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une danse qui, sur le plan musculaire, elle sollicite une grande variété de groupes musculaires. On a des mouvements d'ondulation, de torsion, d'isolation, qui travaillent particulièrement donc les muscles abdominaux, les muscles dorsaux, les muscles pelviens. Et avec donc une pratique régulière, hein, comme pour toute activité, on a des zones qui se renforcent, qui se tonifient. Et même si les mouvements ils semblent fluides et gracieux, en fait, ils mobilisent des muscles profonds qu'on n'a pas l'habitude de solliciter au quotidien, notamment le périnée, qu'on oublie souvent dans la danse. Et donc, parfois, toute cette mobilisation de ces muscles qu'on oublie, eh bien, ça peut expliquer des courbatures qui surprennent souvent les élèves.
Oui, mais ça, c'est juste à la fin du premier entraînement. Après, ça va.
Ah, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des entraînements. Ça dépend si je suis sympa ou pas.
Mais tu es toujours sympa.
Oui, je suis toujours sympa. Mais c'est vrai qu'en fonction de ce qu'on vient de travailler, il y a des cours, forcément, comme pour tout, qui sont plus engageants musculairement que d'autres. Donc voilà. Après, la danse orientale, elle améliore aussi la flexibilité. Tout ce qui est rotation du bassin, le mouvement des bras, les étirements latéraux qui permettent d'assouplir les articulations, d'étirer les muscles, c'est excellent pour les articulations. Et donc ça rend le corps beaucoup plus mobile. Et contrairement aux idées reçues, donc, c'est une danse qui est très engageante sur le plan cardiovasculaire.
Ah oui, c'est ce que j'allais te dire. Il faut quand même avoir une bonne endurance cardiaque, hein.
Alors oui et non. Oui et non, en fait, ça dépend. Alors, moi, j'ai une manière de donner mes cours qui fait que les filles, je ne les pousse pas dans leurs limites. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire en fonction de leurs problèmes de santé, etc. J'ai une de mes élèves qui a des soucis de genoux, il y a des mouvements qu'elle ne fait pas. Et je lui propose d'autres choses pour agrémenter, et elle s'approprie les mouvements comme elle peut, et ça fonctionne aussi. Mais c'est vrai qu'il y a certaines séquences qui sont plus rythmées et qui sont quand même assez engageantes, hein, sur le côté du souffle, la fréquence cardiaque, etc. Et c'est vrai que ça peut développer l'endurance, mais ça se fait, comme pour tout, progressivement. Oui. Voilà, donc après on a aussi la coordination. Alors ça c'est autre chose, c'est plus dur pour les élèves quand on démarre, parce qu'en fait la particularité de la danse orientale c'est de faire bouger différentes parties du corps et de façon isolée. Donc parfois on va faire bouger le buste au niveau des rotations, et puis de l'autre côté au niveau du bassin on va avoir les vibrations, et puis on va avoir un troisième mouvement avec les bras, et donc ça demande... je dirais, un petit peu de temps avant que le cerveau comprenne que... Oui. On dissocie, d'accord. Et en fait, c'est excellent, hein, pour la coordination, et ça permet de développer une aisance pour plein d'autres pratiques,
oui,
en fait.
C'est sûr.
Ça, c'est sûr. Parce que, par exemple, quand tu parles de coordination, moi, je le vois, par exemple, avec des enfants dyspraxiques.
Oui.
C'est vrai que c'est compliqué, hein.
Oui, la coordination, c'est compliqué pour la dyspraxie. J'en connais quelque chose, puisque j'ai une personne de ma famille qui a été diagnostiquée dyspraxique récemment. Et puis en tant qu'éduque, j'ai rencontré pas mal d'enfants dyspraxiques. Alors effectivement, on ne peut pas être aussi exigeant, parce que la dyspraxie, c'est un vrai handicap. Mais je pense que Valérie, tu pourras confirmer. Je suis convaincue que, notamment la danse, mais plein d'autres pratiques qui demandent un travail de coordination, peuvent être excellentes pour justement travailler sur ces problématiques-là.
Ben oui, je te confirme, comme beaucoup plein d'activités, en fait. C'est vrai qu'on peut aider un enfant ou un adulte, hein, dyspraxique, par différentes manières. Et c'est vrai qu'au début, ça va lui demander de la concentration, mais vu que, par exemple, pour la danse, il y a des entraînements, c'est quand même régulier. Au final, on ne le verra pas sur ce problème de dyspraxie, en fait.
D'accord, ok. Merci pour cette précision de ta particularité professionnelle, on le rappelle.
Ouais. Allez, une dernière question pour toi. Tu m'as fait part d'un témoignage d'une de tes anciennes élèves. Et pour justement qu'elle t'a transmise pour l'émission, est-ce que tu veux bien nous en lire un extrait ?
Oui, avec plaisir. Alors, il s'agit du témoignage de Noémie. Alors, Noémie, elle a suivi mes cours de danse orientale pendant 7 ans. Je l'ai rencontrée, elle avait 12 ans. C'était une petite jeune fille qui était très, très, très réservée, qui avait peu confiance en elle. Et je l'ai vue grandir, s'épanouir, devenir une femme. Et comme pour beaucoup de mes élèves, c'est toujours très émouvant pour moi d'observer à quel point cet épanouissement dans la danse il rejaillit ensuite dans tous les aspects de la vie. Alors, il faut savoir que donc Noémie, je suis toujours en contact avec elle. Et voilà son témoignage qu'elle m'a transmis exprès pour l'émission de radio. Donc, je la cite. Avec Angélique, j'ai tout de suite trouvé un cadre bienveillant et chaleureux. Elle avait vraiment su créer une belle ambiance où chacune avait sa place. On pouvait progresser à notre rythme et sans jugement. Ce que j'ai vraiment adoré dans sa pédagogie, c'est qu'elle utilisait des images très parlantes pour nous aider à comprendre les mouvements et à les décomposer. Et grâce à elle, les mouvements les plus complexes devenaient accessibles parce que c'était ludique. Ça donnait vraiment envie de progresser. À cette époque de l'adolescence, où on voit notre corps changer d'année en année, en passant du corps de jeune fille à jeune femme, je pense que la danse orientale m'a vraiment aidée à prendre ma place, à avoir plus confiance en moi. Je me souviens des spectacles, au début, je regardais le sol et je n'osais pas trop sourire à cause du stress. Et au fur et à mesure des années, j'ai vu l'évolution, j'ai levé la tête, j'ai souri et j'ai pris beaucoup de plaisir à danser sur scène. C'est vraiment des moments magiques, la musique, les costumes, tous les accessoires avec lesquels on a pu danser. Quand je revois les vidéos des années après, je replonge dans des souvenirs et c'est vraiment très fort, je suis émue à chaque fois. Ce que j'aimais aussi et ce que je n'ai pas retrouvé avec d'autres profs, c'est que même si on dansait avec des accessoires, il y avait toujours la technique qu'elle mettait en avant. Aujourd'hui, je pense que la danse orientale m'a appris vraiment plus qu'une discipline artistique. Elle m'a permis de passer ce cap de l'adolescence avec plus de sérénité et de me reconnecter à ma féminité et à ma confiance. Alors, pour tout ça, merci beaucoup.
Un très beau témoignage.
Et merci beaucoup à elle, parce que même en lisant ça, des années après, parce que Noémie, elle a 28, 29, bientôt. Donc, je l'ai connue, elle avait 12 ans. Ça, c'est toujours très émouvant pour moi de repenser à tout ça, en fait, et de la lire.
Mais un très beau témoignage. Alors, on va faire une troisième et dernière pause musicale. Salma Yassalama, mais pas la version que tout le monde connaît de Dalida, mais de Alabina et des Gypsy Kings. Et c'est parti!
Yes, sir.
Auditeurs qui nous rejoignent ce matin dans l'émission À ta santé, avant la pause musicale, Angélique Etara nous a parlé de la danse orientale au service du bien-être féminin. Si vous voulez réécouter l'émission, elle sera disponible en podcast directement sur le site de la radio, odradio.fr, dès la fin de l'émission. Angélique, pour conclure sur le sujet aujourd'hui, comment fait-on pour te joindre ?
Ah, comment fait-on pour me joindre ? Bon, y a plein de manières. Alors, déjà, on peut me voir et me rencontrer physiquement à Libourne, à l'école de danse BOA, qui est une super école de danse.
B-O-A.
B-O-A, voilà. Ouais, qui se situe juste à côté de la gare. École de danse qui est tenue par deux femmes engagées, très engagées. Et passionnée et passionnante. Et donc, j'enseigne là-bas tous les jeudis soirs. D'accord. Donc, on peut m'y rencontrer avant et après les cours, voilà.
Alors, jeudi soir, mais de quelle heure à quelle heure ? Parce que c'est variable, tu vois, le soir, ça peut être à 18h comme ça peut être à 20h. Hein, donc,
Alors, de 20h30 à 21h30. D'accord. Donc, en général, je suis là un petit peu avant et puis souvent longtemps après parce que, vous savez, c'est le truc où on dit « Oui, oui, je vais donner mon cours dedans, je pars, je reviens dans une heure. » Et puis, en fait, deux heures après, je suis devant l'école sur le parking en train de discuter avec les élèves.
Ah, je connais ça.
Voilà. Donc, on peut me joindre aussi par téléphone au 06 69 98 31 18. Et on me trouve sur...
Répète-le, s'il te plaît.
Une fois. Je répète, pardon. 06 69 98 31 18. Et donc, on me trouve aussi sur Instagram sous le nom... Etara danse orientale, donc Etara, ça s'écrit H-E-T-A-R-A, danse orientale, voilà.
Et pour ton autre activité, Angélique, donc d'art-thérapeute.
Oui. Alors mon autre activité, donc ma seconde casquette, seconde, troisième, quatrième, je ne sais plus, c'est donc art-thérapeute. J'accompagne tous les âges de la vie à partir du moment où on a la parole, donc j'irai autour de 3-4 ans. Quand on commence à pouvoir symboliser, par l'art-thérapie, à travers l'éducation spécialisée aussi pour les enfants et les ados qui en ont besoin, et les familles, les relations parents-enfants, et tout plein de difficultés qu'on peut rencontrer dans sa vie personnelle, familiale, de couple, professionnelle, etc. Et à travers donc tous les médiums artistiques, qui sont de l'ordre de l'art plastique, de l'art graphique, de l'écriture, du théâtre, de la danse. Et vous êtes aussi les bienvenus pour ça. C'est ce qui fait aussi, je crois,
Valérie,
la manière d'enseigner.
Tu es prête ? On y va ?
Écoute, pas de souci. Par contre, j'ai encore une question pour toi, Angélique.
Oui.
Parce que bah, là, on a parlé donc, donc de Etara, danse orientale, mais donc du coup, il y a aussi les ateliers du Phénix.
Et oui, donc l'art thérapie, c'est les ateliers du Phénix, on me trouve sous ce nom-là. Les ateliers du Phénix, et attention, le Phénix, il s'écrit P-H-O-E-N-I-X, parce qu'il y a plusieurs manières de l'écrire. On me trouve sur Instagram, sur Facebook, et au même numéro de téléphone.
Mais aussi, on peut te trouver peut-être sur des salons. Est-ce que tu as une actualité salon
Alors, pas pour l'instant. C'est vrai que j'ai arrêté un petit peu les salons parce que j'avais remarqué que souvent, les gens qui viennent au salon s'intéressent à avoir des réponses plutôt immédiates. Et j'avais la sensation que ce n'était pas tout à fait adapté. Donc, je cherche d'autres manières de fonctionner, peut-être plus sous forme de conférences. Voilà, j'ai l'impression que ça parle plus aux personnes, le format conférence.
Ok, super.
Mais ça pourrait revenir.
Eh bien, écoute, avec plaisir. Je te laisse la parole, Juliette.
Et merci, Valérie. Donc, comme nous en avons l'habitude chaque semaine, je vais vous énoncer donc les dates et lieux du don du sang pour toutes les collectes. Donc, on vous y attend ce jour, le mardi 17 février, à Castelnau-de-Médoc, au foyer Moulin des Jalles, de 15h30 à 19h. Ce même jour, au Taillon Médoc, salle Le Palio, de 15h à 19h. Demain, 18 février, à Bazas, salle de conférence, de 15h à 19h. Mercredi également, donc demain, à Labret de Saint-Selve, à la salle des fêtes, 15h à 19h. Jeudi 19 février, la traîne dans la salle des fêtes également, de 15h à 19h. Ce même jour, donc à Libourne, donc des chariots, 15h à 19h aussi.
Ah, c'est chez toi, ça,
nous arrivons à vendredi, à Bègles.
Oui. C'est chez moi, Libo.
Ah, super. Donc, nous arrivons à vendredi à Bègles, la salle Jean Lursa, de 15h à 19h. Nous repartons donc à Libourne aussi, donc salle des chariots, de 15h à 19h. Nous passons à la semaine prochaine, le temps passe vite, donc le lundi 23 février, à Léognan, dans les Halles de Gascogne, de 15h à 19h. Ce même jour, sur le bassin, donc le BARP, maison du Val-de-l'Air, de 16h à 19h30. Et enfin, donc, nous allons du mardi au mardi, à Créon, donc dans l'espace culturel, donc le mardi 24 février, de 15h à 19h. Également à Coutras, dans la salle polyvalente, de 15h à 19h. Voilà, nous en avons terminé, on vous y attend chaleureusement.
Oui, toujours, pour les dons du sang en général. Et puis, ils peuvent aussi téléphoner au CHU Pellegrin, à la maison du don, puisqu'il faut donner évidemment son sang, le plasma, mais il faut aussi des fois donner des plaquettes pour justement que ce soit pour tout le monde, au final, puisqu'on est en déficit dans tous ces dons, en tous les cas. Et comme à chaque fois, évidemment, ce n'est pas uniquement au moment des grandes vacances qu'on en a besoin. Et pas
c'est
uniquement en cas d'accident, puisque ça peut venir aussi sur une opération, etc. Donc, on l'a vu d'ailleurs avec Aurélie, qui a eu elle aussi besoin d'une transfusion lors de sa maladie. Et donc, elle nous en avait parlé. Donc, ça aussi, c'est important. Et puis, enfin... il y a eu la tempête la semaine dernière, donc j'ai aujourd'hui une pensée pour toutes ces personnes qui en ont souffert, qui ont eu des dégâts chez eux, plus ou moins importants, et qui en souffrent encore, puisqu'il y a des endroits où ils sont toujours sous l'eau, sans courant, et parfois même sans eau potable. Donc merci de penser à eux, et que la solidarité se fasse également pour toutes ces personnes, parce que c'est important. Enfin, Angélique, comme on a un petit peu de temps, pendant la pause, tu as montré des photos, des accessoires.
Je suis en train de regarder.
Et alors justement, c'est vrai, on a dit, la danse orientale, qu'est-ce qu'on a comme accessoire? Déjà, peut-être comme costume. De quoi est composé notre costume quand on vient chez toi?
Alors, j'ai Juliette qui me montre des photos en face. Alors, dites-moi, une question à la fois.
Moi, j'ai envie de savoir nos costumes. Parce que,
costumes.
Moi, je ne fais pas de danse orientale, mais au final, on s'attend à quoi quand on fait de la danse orientale?
Mais tu pourrais, Valérie.
Oui, je le pourrais, tout à fait.
On t'accueille d'ailleurs. Alors les costumes, il y en a plein des costumes en fait. Le costume qu'on connaît aujourd'hui, donc ça va être la jupe longue, souvent fendue, le soutien-gorge à paillettes, la ceinture à pièces, etc. Donc ça c'est ce qu'on retrouve principalement, mais en fonction des types de danse, on a le saïdi, le baladi, plein de choses, des accessoires qu'on utilise. On va avoir des tenues plus ou moins couvertes, donc on va avoir des robes qui vont être parfois transparentes, au niveau du ventre, très moulantes,
oui,
etc.
C'est ce que je vois là sur les
on va avoir des danses qui se dansent plus en robe traditionnelle, donc tout ce qui est robe berbère. Alors, j'ai pas de photo là,
alors,
mais...
Alors, celle-ci, donc, explique-moi.
Alors, ça, c'est... C'est des tenues qu'on avait trouvées, qu'on avait faites pour le spectacle de fin d'année pour un groupe de débutantes. Et donc, en fait, on a adapté tout simplement pour que tout le monde soit à l'aise déjà. Parce que j'en avais qui voulaient montrer les jambes, d'autres pas.
Oui.
Et puis, j'avais une de mes élèves qui était porteuse d'un handicap que je ne citerai pas. Parce que si jamais elle se reconnaissait à la radio,
bien
je
ne
voudrais
pas
qu'elle soit gênée. Mais
bien
en
sûr.
Tout cas, on s'était toutes mises d'accord pour que la tenue soit adaptée à elle et qu'elle ne soit pas gênée sur scène. Et donc, tout le groupe s'était mis d'accord. Voilà, donc là, on voit sur la photo donc des tenues avec...
Ces tenues sont-elles faites maison ou achetées et après, effectivement, adaptées sur chaque morphologie?
Alors, nous, on achète parce
d'accord.
que tout le monde ne sait pas coudre dans le groupe et on les adapte.
D'accord.
Voilà. Mais on peut les faire à la main. Alors, ça demande quand même des compétences particulières
oui.
en broderie, en couture. Et c'est extrêmement long. Et finalement, c'est quand même assez coûteux hein, en termes d'investissement
oui.
Tissu, perles, etc. Et on peut mixer aussi. Moi, c'est ce que je fais souvent. J'essaie de trouver des choses à moindre coût. Et puis, j'achète des accessoires et je propose aux filles de mixer des trucs, de coudre, de les aider, etc. Mais prochainement, j'aimerais bien aller de plus en plus vers des projets de costumes qu'on ferait nous-mêmes, toutes.
Oui, bien sûr. En tout cas, ce sont des tenues très festives, très lumineuses, je trouve.
Oui,
qui en soleil.
En principe. Mais on
ouais.
peut... Là, il n'y en a pas sur les photos. Mais on peut retrouver parfois aussi des tenues qui vont plus ressembler à des djellabas,
oui.
Où on va danser donc, avec des foulards sans pièces qui vont être noués au niveau des assez bas sur les hanches. Pour marquer justement les mouvements. On va, au niveau des accessoires, on a le voile. Mais tiens,
je me demande si je vais pas faire d'essayage, Valérie, quand
Allez. Alors voilà un voile. Donc le voile, c'est quelque chose, c'est un accessoire qui en général est plus ou moins transparent, qu'on fait voler autour de soi avec des jeux de mains, de bras. Et qui permet de chorégraphier avec une dimension qui est très aérienne. C'est très engageant musculairement au niveau des épaules et des bras, le voile. Voilà, donc là, j'ai pu le ramener parce que ça ne prend pas trop de place. Mais on a, donc là, c'est des châles ou des ceintures à pièces. Tiens, voilà. Donc là, tu en as deux. Et donc, c'est ça qu'on va venir mettre... hop, voilà, autour de la taille.
Ah, j'aime bien le bruit. Écoutez, chers auditeurs et auditrices.
Tiens, t'as celui-là qui est très joli. Voilà, donc il y en a de différentes formes, couleurs, matières. Ouais. C'est... Bon, souvent, c'est très coloré.
Celui-ci ?
Oui. J'ai pas...
C'est un certain poids.
Oui, c'est assez lourd. Alors,
oui.
en fonction de la facture, en fait, de l'objet, de la ceinture,
oui.
c'est plus ou moins lourd. En général, quand plus ils sont légers, moins ils sont travaillés, souvent. Voilà, celui-ci, il est bruyant, mais il est peu travaillé. Il y a quelques pièces dessus. Et l'autre, on a vraiment du travail de broderie au niveau des perles, etc. Voilà, c'est pas la
Donc,
même fabrication. Ouais.
Comment ? Comme ceci ?
Et bien, tu le portes autour des hanches et tu le noues sur le côté.
C'est ça ?
Et en fait, donc déjà, bon, il y a une dimension, on va dire, esthétique. Mais moi, ce que je dis souvent aux filles, surtout celles qui débutent, c'est mettez vos châles. Parce qu'en fait, quand elles déhanchent et qu'elles font des accents, donc c'est, tu sais, l'accent, c'est le coup de hanche qu'on va mettre sur le côté.
Oui, d'accord.
Exactement. Ouais, super.
Écoutez, bien, il y a du son, pas l'image,
voilà.
mais il y a du son.
Hop, et bien en fait, ça permet de mieux conscientiser son mouvement parce qu'on l'entend aussi. Ouais. Et en fait, c'est vrai que la danse, on joue beaucoup avec ouais. les sens. Hein. Donc on a la vue, on ouais. a le toucher, le ressenti, la proprioception ouais. de son propre corps. Et puis on a l'ouïe. Et en fait, oui, on n'a pas que la musique, on a ce qu'on entend de son corps et de son costume.
Moi, j'ai
Donc une ça aide.
Oui. On danse pieds nus.
Oui, alors la plupart du temps, on danse pieds nus. Parfois, sur des vidéos qu'on va trouver de performances très scéniques, souvent, c'est des concours de danse. On va avoir des danseuses avec des magnifiques costumes très fendus, très dénudés, qui portent des chaussures à talons. La danse orientale, initialement, c'est une danse de tribu, hein. C'est une danse de la terre, c'est une danse de communauté. Et donc, ça se danse pieds nus,
oui,
ça se danse...
On est ancré au sol.
On est ancré au sol. On a le... Alors moi, en ouais. tout cas, vous ne me verrez pas danser avec des chaussures à talons. Ouais. on est vraiment en contact avec son poids, avec ouais. son corps. Et enfin, moi, je suis contre les chaussures.
Eh bien, je comprends, parce que moi aussi, dans mon métier, je suis contre les chaussures.
Ah, ça, on se retrouve sur plein de trucs, Valérie.
Ah oui, oui. Parce que pour l'ancrage, eh bien, donc dans ma partie d'écriture, bah, effectivement, je demande à chaque fois de travailler pieds nus. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais pour finir, puisque je vois que l'heure approche, je te remercie, donc, Angélique, de nous avoir parlé de la danse orientale au service du bien-être féminin. On a appris plein de choses. Je remercie Juliette.
Merci à toi, Valérie, et merci Aurélie.
Non, c'est pas Aurélie, c'est Angélique.
Pourquoi Aurélie ?
C'est pas grave. C'est...
Mais parce que j'ai parlé d'Aurélie.
C'est pour ça.
Voilà. La semaine prochaine, Juliette et moi, nous recevrons Sarah Bimboir, qui nous parlera de handicap invisible.
Ah, très intéressant comme sujet.
Très intéressant, parce que justement, il est invisible, ce handicap.
Eh bien, je pense que si j'ai la possibilité, j'essaierai de vous écouter en direct, parce que c'est un sujet avec lequel je travaille souvent.
Mais en sachant que même si tu ne peux pas l'écouter en direct, tu pourras au moins l'écouter en podcast.
Mais avec
sera,
plaisir.
Directement sur le site de la radio.
Avec plaisir.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Get lost.